Le 18-20, c'est comme chaque soir et avant tout ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 8 février avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence avec un convoi ce soir.
Le convoi de la liberté qui réunit des centaines de routiers canadiens contre l'obligation vaccinale et qui bloque Ottawa depuis plus d'une semaine. Un blocage qui prend des airs de crise politique. Justin Trudeau, le Premier ministre, appelle pour la première fois à lever le siège de la capitale canadienne. Nous serons sur place dans un instant avec notre envoyé spécial. À l'étranger, encore l'actualité, c'est la suite des efforts diplomatiques de Paris dans la crise ukrainienne. Emmanuel Macron a rencontré le président ukrainien cet après-midi à Kiev et entrevoit des solutions concrètes. À suivre aussi, comment roulerons-nous en 2050 pour respecter nos engagements climatiques ? Marine Le Pen qui fait évoluer son programme sur la retraite à 60 ans. Et puis pour finir, la première médaille d'or française au JO de Pékin, c'est du biathlon.
À 18h15, un jour dans le monde avec la question récurrente de ces dernières semaines, quitter le Mali, d'accord, sans quitter le Sahel, comment on fait? D'autant que la tension reste très haute avec de nouvelles petites phrases envoyées par le Premier ministre malien vers la France, c'était hier. À 19h20, le téléphone sonne, réhabilitons les maths ce soir. Les maths, c'est toujours l'option la plus courue depuis la réforme du bac, mais on réalise à quel point plus de maths ou presque dans le tronc commun est un vrai souci, d'autant que les filles désertent l'option maths de plus en plus. Ce tronc commun, il sera donc revu. Il reste à s'interroger sur l'enseignement des maths, sur l'attractivité des maths. Et peut-être que la seule vraie bonne question, d'ailleurs, c'est celle qu'on ne pose jamais. À quoi ça sert, au fond, les maths ? 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc le début de ce journal, Sébastien, commence, on le disait, avec du jamais vu au Canada.
Oui, Ottawa, la capitale canadienne d'ordinaire, si paisible, transformée en corps retranché. Cela fait 10 jours maintenant que des centaines de poids lourds paralysent la ville. Ce convoi de la liberté, comme il s'appelle, rassemble des centaines de camionneurs opposés au départ à l'obligation vaccinale, mais qui désormais s'étend à tous ceux qui sont contre les restrictions sanitaires. Le Premier ministre Justin Trudeau, jusqu'ici très discret, a fini par prendre la parole hier et appeler à la fin de ce siège, dit-il, sans toutefois envoyer plus de forces de l'ordre, alors que le maire d'Ottawa lui demandait 1800 policiers supplémentaires. On retrouve sur place notre envoyé spécial Sébastien Paour, correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes devant le Parlement canadien où ça continue de klaxonner malgré l'interdiction de la justice. Alors à quoi ressemble ce soir le centre-ville d'Ottawa ?
À la fois un parking de station-service et un vaste camping sur l'avenue Wellington devant le Parlement où je suis. Il y a toujours des dizaines de camions, mais aussi des pick-up, quelques voitures arrêtées, tous couverts de drapeaux canadiens sur leur calandre, de messages anti-Trudeau, comme par exemple ses mains derrière des barreaux et la légende c'est sa prochaine maison, ou bien des appels à lever toutes les obligations, à retrouver les libertés d'avant la pandémie. Le mot freedom, liberté, est inscrit partout sur une crosse de hockey sur glace qui sert de porte-étendard ou encore dans la neige qui est tombée sur les pare-brise. On fait des barbecues, on distribue devant moi des bols de soupe, il y a des stocks de café ou de lingettes sous des tentes entre deux poids lourds où les camionneurs peuvent se servir. Ce sont souvent des dons d'habitants de la ville. Tout le centre-ville est bouclé. Les policiers sont dans leur voiture gyrophare allumée, souvent devant de gros blocs de béton qui sont en travers des rues.
Alors voilà pour la photo. Comment réagissent les Canadiens et les habitants surtout face à cette crise, Sébastien ? Ils semblent très divisés.
Oui, certains soutiennent ce mouvement, disent leur ras-le-bol des contraintes imposées par la pandémie, les vaccins, les confinements, les couvre-feux. Ils veulent le départ du Premier ministre Justin Trudeau plus globalement et ils viennent dire aux routiers qu'ils sont avec eux. Et puis, beaucoup d'habitants aussi du centre-ville sont excédés par ces 11 jours maintenant d'occupation, de siège, ce sont leurs mots. Ils ne reconnaissent pas leur ville, la capitale fédérale. Ils vont faire leurs courses en périphérie parce que la plupart des commerces sont fermés ici, près du Parlement et des bureaux du Premier ministre. Leur seul motif de satisfaction finalement, c'est que le calme relatif est revenu. Vous entendez autour de moi quand même quelques klaxons, même s'ils ont dû se taire, ils sont interdits depuis hier, depuis une décision de justice. Ils peuvent donc de nouveau, ces habitants, dormir. Ils décrivaient jusqu'ici un vacarme assourdissant qui commençait vers 7h du matin et qui durait jusqu'à 23h parfois le soir. C'est vrai que les avertisseurs de ces camions qu'on entend encore un petit peu là en ce moment ressemblent plus à ceux des trains de marchandises qu'à ceux de nos voitures.
Voilà, Sébastien Paour dans le vrombissement et les klaxons des camions canadiens envoyés spécial en direct. direct d'Ottawa. Ajoutons que ce convoi de la liberté a essaimé un peu partout dans le pays, mais aussi à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Ainsi, un convoi de camions et de camping-cars a bloqué aujourd'hui les rues autour du Parlement de Wellington. Et puis en France, des milliers d'opposants au pass vaccinal appellent sur les réseaux sociaux à rouler sur Paris ce samedi. Restons encore sur le chapitre sanitaire avec sur le front des vaccinations en France, 4 à 5 millions de personnes qui n'ont pas encore fait leur dose de rappel et qui risquent donc de perdre leur pass vaccinal le 15 février prochain. Le protocole sanitaire, lui, dans les écoles, était cet après-midi au cœur d'une consultation avec les syndicats d'enseignants. 3 pistes envisagées, la fin du masque en extérieur et puis 2 autotests au lieu de 3 après un cas contact et la fin de l'attestation parentale sur l'honneur.
Après Moscou, hier, Emmanuel Macron était à Kiev aujourd'hui.
La médiation diplomatique du président français se poursuit pour tenter de trouver une issue à la crise ukrainienne. Entretien de 5 heures hier avec le président russe qui s'est dit prêt à des compromis et cet après-midi rencontre donc avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État français assure qu'il est, je cite, possible de faire avancer les négociations avec la Russie. Il est optimiste quant à la possibilité de trouver des solutions concrètes, pratiques, sans en faire le détail. Toutefois, le président Poutine a dit à Emmanuel Macron, je cite encore, qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade. Au-delà de ces positions encore très prudentes, on retiendra aussi cette sortie hier assez familière du maître du Kremlin à l'adresse de son homologue ukrainien qui n'a pas hésité aujourd'hui à répliquer avec humour et fermeté. On réécoute d'abord Vladimir Poutine.
Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. À Kiev, ils disent qu'ils respecteront les accords de Minsk et puis ils disent que cela va ruiner leur pays. Récemment, le président actuel a dit qu'il n'y avait rien qui allait dans les accords de Minsk. Mais que cela te plaise ou non, prends sur toi ma beauté. Il va falloir t'y plier.
Et voilà la réponse maintenant de Volodymyr Zelensky qui prend la peine de répondre en russe.
Certes, on ne peut qu'être d'accord sur certains points avec le président de la Fédération de Russie. L'Ukraine est vraiment une beauté. Et en ce qui concerne le « sois patiente, ma beauté », je pense que d'une façon générale, l'Ukraine est très patiente. Parce que la patience, c'est la sagesse. Et ce n'est pas seulement important pour l'Ukraine, mais aussi pour toute l'Europe et pour les Russes. Parce que notre patience prévient l'escalade. Nous ne répondons pas aux provocations. Nous nous comportons dignement. La patience me semble donc être la sagesse.
Voilà pour cet échange de bons mots entre les présidents russes et ukrainiens. Emmanuel Macron lui est attendu à Berlin ce soir pour débriefer avec le chancelier allemand qui lui revient d'un entretien avec Joe Biden à Washington. Venons-en maintenant à cet important rapport sur les objectifs climatiques de l'Hexagone. France Stratégie, l'organisme d'évaluation et de prospective rattaché à Matignon, a planché sur plusieurs scénarios pour atteindre l'objectif de neutralité carbone que s'est fixé le pays pour 2050. C'est dans moins de 30 ans. France Stratégie s'est intéressée à la question des transports. Comment nous déplacerons-nous dans 30 ans pour faire face à l'urgence climatique? Eh bien, en une génération, il va falloir décarboner tous les transports, voitures, camions, trains, avions, bateaux. Un défi colossal, Sandy Dauphin.
La priorité la plus visible, c'est de changer la motorisation des voitures, camions, TER, avions et autres porte-containers pour se passer de carburant fossile à base de pétrole. Cela veut dire convertir le parc de voitures en électrique et miser sur des nouvelles technologies comme l'hydrogène. Le rapport pose des conditions de réussite. Il faut que les infrastructures suivent, assez de bornes de recharge sur les routes, de prises dans les immeubles. Il faut aussi adapter la réglementation. Reste que la technologie ne suffira pas à elle seule pour atteindre la neutralité carbone, dit le rapport. Il faut aussi de la sobriété, autrement dit changer de comportement pour se déplacer avec un cocktail de solutions, covoiturage, vélo pour les trajets courts, ou encore transport en commun. Décarboner le secteur des transports en l'espace de 20 ans, c'est un défi climatique et désormais économique. La reconversion de l'industrie automobile et aérospatiale est urgente pour rester dans la compétition internationale, notent les experts. Reste que l'adhésion des Français est l'enjeu le plus délicat. Or, aujourd'hui, elle n'est pas complètement acquise.
Sandy Dauphin, le rapport de France Stratégie, c'est aussi à retrouver sur franceinter.fr.
Et puis Sébastien, quand une candidate à la présidentielle édulcore l'une de ses promesses de campagne, Espagne.
Marine Le Pen avait déjà changé son fusil d'épaule sur l'euro, plus question de sortir de la zone monétaire. Et bien, nouvelle modification de son programme économique. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
La candidate du Rassemblement National ne mentionne plus le retour à la retraite à 60 ans pour tous, comme lors de ses précédentes campagnes.
Oui, c'est la proposition 9 sur les 22 de son programme. Garantir à nos aînés une retraite sereine et digne. Marine Le Pen refuse tout allongement de l'âge de départ et promet à ceux qui ont travaillé avant 20 ans, pendant 40 annuités, de prendre leur retraite à 60 ans. Autrement dit, 60 ans, ce n'est plus automatique et plus pour tous, comme dans ses campagnes de 2012 et 2017. Elle s'en explique sur France 2.
Non, ce sera progressif en réalité, il y a un effet progressif, mais vous comprenez bien l'idée, en revanche, qui est la mienne, c'est que je refuse les propositions qui sont faites par d'autres candidats qui consistent à continuer à allonger au fur et à mesure l'âge de la retraite, qui fait qu'il y a des gens qui en réalité n'atteindront jamais l'âge de la retraite et n'auront surtout jamais de retraite pleine.
Ou comment minimiser la réforme d'un totem? En interne, la mesure extrêmement coûteuse était critiquée, notamment par le maire de Béziers, Robert Ménard, promesse susceptible de décrédibiliser la candidate aux yeux des électeurs de droite. Discrètement, la formulation a donc évolué. Mais avec quelles conséquences pour les actifs qui ont démarré, et c'est très souvent le cas, après 20 ans? C'est là que c'est flou. Une brèche dans laquelle s'engouffrent les mélenchonistes qui, eux, prônent la retraite à 60 ans pour tous avec 40 annuités, eux aussi, mais avec un âge légal de départ qui reste à 60 ans. Précision qui a disparu du programme de Marine Le Pen.
Les précisions, dit Yael Gauze, chef du service politique d'Inter. Marine Le Pen qui n'a toujours pas atteint les 500 parrainages pour se présenter au scrutin du mois d'avril. 139 signatures selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel. Valérie Pécresse, en revanche, a largement dépassé le seuil nécessaire avec 939 parrainages, tout comme Anne Hidalgo avec 652 signatures. Direction la cour d'assises de l'Isère à Grenoble pour le procès de Nordal Lelandais. La cour d'assises tente de reconstituer cette soirée de mariage au cours de laquelle la petite Maëlys a disparu avant d'être tuée en août 2017. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Un témoin est venu raconter le point de bascule de cette soirée. Il est le cousin du marié et de la mère de Maëlys.
C'était une magnifique soirée de mariage, l'une des plus belles que j'ai faites, raconte Kevin. Il se souvient de Maëlys en train de jouer au ballon. Il se souvient d'elle aussi, fière après avoir gagné un paquet de bonbons en jouant à la chaise musicale. Il plaisante, elle n'a pas voulu m'en donner. Puis sa voix se tord quand il évoque ce moment fatidique, dit-il. Après le gâteau, sa cousine Jennifer vient le voir. Elle cherche sa fille. Je lui ai dit, Maëlys est probablement avec les autres enfants, mais elle n'y était pas. On est allé dans la cuisine, elle n'y était pas. On est allé dehors sur les parkings, elle n'y était pas. Alors je me retrouve avec un oncle en costard au milieu des champs, près d'une rivière, à crier son nom dans la nuit. Elle ne répond pas. Je me souviens, je me suis dit, c'est pas possible, la petite, elle n'est pas partie avec quelqu'un. On n'est pas en train de vivre ça. Tout le monde pleure, c'est la panique. Et quand on commence à chercher dans les poubelles, c'est l'enfer. La suite, explique Kevin, c'est des mois en enfer, avoir ma famille dépérir, avoir ma famille exploser.
Mathilde Vinceneux en direct de Grenoble avec les moyens techniques de Georges Thau.
Allez, c'est fait, Sébastien. La France décroche enfin l'or à Pékin.
Oui, première médaille d'or française aux JO d'hiver. Elle est sans surprise pour le biathlon. Quentin Fillon-Maillet, QFM pour les intimes, l'emporte. Il remporte l'épreuve du 20 km individuel, la consécration pour le Jurassien désigné il y a deux saisons comme le successeur de Martin Fourcade. Jérôme Val est en Chine pour Inter.
Porté en triomphe au pied du podium par l'équipe de France de biathlon, le tout sous le regard du quintuple champion olympique Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet est bel et bien rentré depuis tout à l'heure dans une nouvelle dimension.
C'est aussi symbolique qu'ils soient fiers de moi, je suis touché parce qu'ils savent l'effort et la difficulté pour aller chercher une médaille olympique, c'est des encouragements qui comptent.
Il y a 4 ans en Corée du Sud, le Jurassien n'avait pas la tête à la performance. Sa compagne était atteinte à l'époque d'un cancer, son beau-père venait de décéder. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial savoure cette revanche sur le destin.
À ce moment-là, le biathlon est passé en second plan, mais avant de partir, ma copine, elle m'a dit, essaye de gagner pour moi, essaye de gagner pour mon papa, et puis ça a été chose faite. Donc, vous imaginez que c'est beaucoup plus grand que le biathlon, tout ça, mais j'y suis maintenant.
Celui que l'on surnomme Robocop a une force de caractère qui impressionne son partenaire en équipe de France, Émilien Jacquelin.
C'est quelqu'un qui a une confiance en soi, en tout cas, qui me fait rêver, que j'aimerais avoir. Puis surtout, il a un niveau et une rigueur en tout cas à l'entraînement, c'est quelqu'un qui bosse énormément et il fait un très beau champion olympique.
Et sa moisson olympique n'est pas terminée, Quentin Fillon-Maillet rêve désormais en grand. Zhang Jiakou, Jérôme Val, France Inter.
Et à suivre attentivement la nuit prochaine pour peut-être de nouvelles médailles, les épreuves du slalom femme et du snowboard cross, votre spécialité, Fabienne.
Absolument. Absolument. Très très bonne. Vous devriez me voir avec beaucoup de classe, un petit style comme ça. Merci Sébastien. À tout de suite. Dans Sous les radars, vous allez nous parler du bain de forêt. Ça, c'est plutôt votre style. Ça se passe au Canada. Ce soir, nous allons au Mali. Énième nom d'oiseau entre le Mali et la France. Et la question du départ de la France de front. Vraiment, depuis ces dernières semaines. Et puis au téléphone sonne à partir de 19h20. Je vous le remets dans l'oreille à partir de 19h20. Donc on parle mathématiques ce soir. Voilà qu'on se rend compte depuis la réforme du bac que les maths disparaissent du tronc commun en première et terminale et que c'est vraiment un souci. Les maths sont désertées notamment par les filles. Ça a de vraies conséquences pour les métiers scientifiques. Donc on va le revoir, ce tronc commun. C'est vrai, le ministre l'a promis, mais est-ce qu'il faut aussi revoir l'enseignement, la méthode, réexpliquer aussi à quoi ça sert les maths pour les rendre vraiment attractives? Ça se passe au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Jean-Pierre Hameau, bonsoir. Du soleil, mais pas partout, voilà pour demain.
Effectivement Fabienne, demain matin nous allons nous réveiller sous une bonne tartine de nuages de la Bretagne au Pays de Loire, de la Normandie à l'Eure-et-Loire, de l'Île-de-France au Nord-Pas-de-Calais et jusque vers les Ardennes. Attention au brouillard parfois épais entre les Pays de Loire et l'Île-de-France. Prévoyez des brouillards givrants aussi le long de la Saône et des entrées maritimes autour du Golfe du Lion. Et dans les autres régions, la matinée sera bien ensoleillée. L'après-midi, les entrées maritimes resteront d'actualité autour du Golfe du Lion. Le ciel sera partagé entre courtes éclaircies et passages nuageux des côtes charentaises et vendéennes à la Bretagne et de la Normandie aux frontières belges, en passant par l'ouest parisien. Et partout ailleurs, vous profiterez une nouvelle fois du soleil. Côté température, elles seront froides en fin de nuit dans le centre-est voisine de moins 3 degrés. Les maximales l'après-midi plutôt douces pour la saison évolueront entre 11 et 19 degrés du nord au sud.
Jean-Pierre Hameau de Météo France. Merci beaucoup Jean-Pierre. À tout à l'heure après 19h.